Chapitre 13. Olga et Hugo sont allongés, bras et jambes entremêlés, immobiles et silencieux. Olga fixe le cercle de lumière au plafond. Elle entend la respiration paisible de Hugo qui s'est endormi. Elle songe à se glisser hors du lit pour aller prendre une douche, mais ses paupières se ferment. Lorsqu'elle se réveille, elle est seule. Elle a froid. Elle se demande si Hugo est parti. Il est 1h du matin et la bougie sur la commode est presque entièrement consumée. Sa flamme se contorsionne dans de petits soubresauts désordonnés. Le plancher gémit sous ses pas lorsqu'elle quitte le lit. Elle scrute l'obscurité du couloir. Tout est noir dans la salle de bain. Elle perçoit des bruits sourds et frissonne. Elle saisit son peignoir léger, l'enfile et serre le cordon autour de sa taille. La bougie clignote dans un ultime sursaut de vie. Sa lueur chaude et palpitante projette des reflets dansants sur les murs. Elle traverse le couloir. Son ombre se dessine un instant devant elle avant de laisser place à l'obscurité.
« Hugo ?»
appelle-t-elle d'une voix à peine audible. La porte de la salle de bain est entrouverte. Un léger grattement métallique s'en échappe. Elle s'arrête, tend l'oreille et scrute la fente entre la porte et le cadre, attentive au moindre mouvement. Elle entend des coups, peut-être venus de la cuisine. Olga avance, explorant l'ombre épaisse qui la sépare du salon. Son dos se tend lorsqu'elle sent qu'elle n'a plus prise sur l'obscurité. Le son métallique reprend, cette fois venu du salon. Avant de franchir la porte vitrée qui mène au salon, elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule vers la lueur tremblante dans la chambre. Le canapé, la table en verre, le petit bar, les étagères, la télé, tout est plongé dans l'obscurité. Soudain, elle s'arrête et étrangle un cri. Une silhouette se tient derrière le rideau de la porte-fenêtre. « Hugo !» dit-elle d'une voix ferme. La forme se retourne lentement. À travers le tissu léger, elle distingue un regard vide fixé sur elle. C'est bien Hugo. Ses bras pendent le long de son corps. Dans sa main droite, un grand couteau de cuisine luit dans la pénombre. Le tissu du rideau frémit à chacune de ses respirations.
« Qu'est-ce que tu fais ? »
demande-t-elle, comprenant aussitôt qu'il est en pleine crise de somnambulisme. Hugo avance lentement. Le rideau s'écarte autour de lui. Il porte son jean noir et un t-shirt usé mis à l'envers. Il la fixe avec un visage dénué d'expression. Ses lèvres bougent à peine, comme s'il essayait de parler sans trouver les mots.
« Pose ce couteau, » dit-elle, la gorge nouée. « Je veux que tu... »
Elle s'interrompt lorsqu'il fait un pas vers elle, les bras tendus. Elle recule précipitamment et heurte le chariot à barre. Les bouteilles s'entrechoquent, une carafe tombe et brise le silence d'un éclat sec, projetant des éclats de verre sur le tapis épais. Elle pivote et s'enfuit vers le couloir. Son peignoir s'ouvre dans sa course, elle glisse, se cogne l'épaule contre le mur. Les pas lourds de Hugo retentissent derrière elle. Elle se précipite dans la chambre et claque la porte, la clé tombe. La ceinture de son peignoir est restée coincée dans la porte, son cœur bat à toute allure. Elle serre la poignée et scrute la pièce à peine éclairée par la lueur déclinante de la bougie. La clé gît au sol, à plus d'un mètre. La flamme rétrécit, devient un bleu pâle et émet un petit crépitement au moment de s'éteindre. Une odeur âcre de cire fondue envahit la pièce. Olga entend Hugo, juste derrière la porte. Le métal du couteau crisse contre le bois. À tâtons, elle cherche la clé du bout du pied. Soudain, Hugo tire sur la ceinture de son peignoir. Elle perd l'équilibre, mais résiste. Elle sent la chaleur de la friction lorsque le tissu glisse le long de ses hanches, happé par l'obscurité. Ses mains sont moites, ses jambes tremblent. Elle tente de respirer le plus doucement possible. Par les rideaux fermés, une pâle clarté redessine lentement les contours des meubles et l'ombre de la clé sur le sol. Elle se penche, fait glisser son pied pour l'atteindre, puis retire une main de la poignée et se baisse. Au moment où elle parvient à saisir la clé, Hugo tente d'entrer. Elle se redresse d'un bond, pousse violemment la porte avec son épaule, insère la clé dans la serrure d'une main tremblante et tourne.
marmonne des paroles incompréhensibles, puis s'éloigne dans le couloir. Elle attend, l'oreille collée contre le battant. Elle perçoit de nouveau un grattement, puis c'est le silence. Elle saisit son téléphone sur la table de chevet, active la torche et déverrouille la porte. Elle suit les empreintes ensanglantées jusqu'au salon. Hugo est là, derrière le rideau, en train d'ouvrir la porte-fenêtre. Il laisse tomber le couteau, sort sur le balcon, puis passe une jambe par-dessus la rambarde.
Bernard et Agnetta sont assis dans leur véranda devant une tisane et une tartine de pain au fromage. La seule source de lumière provient d'un photophore en verre dépoli posé sur la table. Il est 1h15 du matin. Agnetta porte un gilet en crochet par-dessus sa chemise de nuit. Démaquillée, elle s'étenduit le visage, le cou et les mains de crème hydratante. Bernard porte un short bleu et un t-shirt délavé floqué « Edinburgh International Book Festival ».
« Tu n'es pas obligé de rester debout pour moi », dit-il pour la troisième fois. « Ça ne me dérange pas. J'en ai envie. On reste un peu, on boit une tisane et on voit s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Merci. »
« Tu as bien appelé tous ses amis ?»«
Ouais, » soupire-t-il.
« Et aucun ne sait rien ?»« J'ai eu l'impression qu'ils disaient la vérité. Ils m'ont bien parlé de la fille avec qui Hugo sort, mais ils ne l'ont jamais rencontrée. Ils ne connaissent même pas son nom. »«
Peut-être qu'il est vraiment amoureux. » »«
On dirait oui. » La main de Bernard tremble légèrement lorsqu'il casse un bout de pain, le tartine de beurre, et y dépose 2 fines tranches de fromage.
« J'ai cherché des Olga, » dit Agnetta, « mais il y en a trop. Des milliers, comme je te l'ai dit. »
Et on ne sait même pas si Olga est son vrai prénom. Agnetta regarde par la fenêtre. La nuit a englouti les maisons de Bjørnholmen, de l'autre côté du détroit.
« Je crois que je me suis laissé envahir par ta peur, » murmure-t-elle. « Mais en réalité, il a cours demain. Il a 17 ans, une copine, et il est 1h du matin. » Ce n'est peut-être pas si grave.
Sauf qu'il traverse une phase de somnambulisme assez violente. Il dort mal, il s'endort partout, dans le métro, dans les bars.
Bernard mange sa tartine, puis regroupe les miettes du bout de l'index.
Merci d'avoir essayé de lui parler. Je sais que c'est pas évident, murmure Agnetta.
Non, ça ne l'est pas.
Il se tait, boit une gorgée.
« Quoi ?» demande-t-elle doucement. « Il va bientôt être adulte, et j'ai peur de le perdre complètement. Je veux qu'il reste dans ma vie.
Bien sûr. Je pense qu'il a besoin de moi, même s'il ne s'en rend pas compte pour l'instant, » dit Bernard en vérifiant encore une fois que le son de son téléphone est bien activé. « J'ai peur qu'il fasse une connerie, quelque chose de désespéré.
Je sais.
Je ne me le pardonnerai jamais. »
Bernard esquisse un petit geste d'abandon, puis se lève pour remplir leur tasse.
« Tu comprends qu'il ne peut pas continuer à me traiter comme ça ?» dit-elle calmement.
« Ce n'est pas l'aider. Ce n'est pas lui montrer ce qu'est l'amour. »«
Non, mais... » »« Et ça pourrait nous détruire, tous les deux. » »«
Ça ne doit pas, » répond Bernard en la regardant dans les yeux.
« Non. » »« Je repense souvent au début, quand on s'est rencontrés, on était fous amoureux. Mais ce n'était pas le choix de Hugo. Je crois que j'ai voulu aller trop vite. Je voulais oublier Claire. Mais Hugo, lui, avait besoin de sa mère. Surtout que Claire ne donne presque pas de nouvelles.
Elle en donne, mais trop rarement.
Elle lui manque.
Peut-être. Tout ce qu'elle lui a laissé, c'est un vide.
Il observe une lueur qui glisse sur l'eau noire du détroit.
« Je suis là depuis longtemps. »«
Avant qu'elle ne parte, » dit Agnetta.
« Je sais. Tu as fait ce qu'il fallait. »
Chaque fois qu'Agnetta se laisse gagner par la frustration vis-à-vis de Claire, elle se méprise un peu plus. Claire avait tout, un fils formidable, mais elle a choisi la drogue. Elle n'envoie même pas une carte pour son anniversaire, pas un mot à Noël.
Agnetta boit une gorgée de tisane, repose sa tasse et tente de changer de sujet.
« Et ton livre ?»«
Ça avance ?
Je le recouvre d'un voile de larmes, pour citer Munkel.
Sérieusement ?
Oui, ça avance. Mais j'ai l'impression que je vais devoir tenter quelque chose de complètement nouveau.
C'est normal qu'il y ait de la pression, des attentes.
Mais tu ne peux pas juste te plagier pour faire plaisir aux autres.
Tu dois retrouver la magie de l'écriture, celle dont tu me parlais toujours,
dit-elle en posant la main sur son cœur.
J'aime la romance,
je sais. Mais peut-être que ton esprit a été un peu trop parfumé par elle toutes ces années.
Parfumé ?
Interrompt-il en souriant.
Pardon,
dit-elle en riant doucement.
Tu penses que je devrais écrire quoi ?
Un polar ?
Non, mais j'ai une idée.
Je t'écoute.
Promets-moi de ne pas mal interpréter ce que je vais te dire, d'accord ?
Je pense que tu devrais écrire un livre sincère, profondément humain, sur ce qui se passe en ce moment.
Avec Hugo, toi, nous, la police, les deux meurtres.
Il pose sa tasse, la regarde.
Il faut d'abord que je parle à Hugo,
bien sûr.
Mais c'est pas une mauvaise idée.
Je peux t'aider pour les recherches.
Tu sais, j'ai des contacts dans la police.
On va écrire ensemble,
dit-il en se levant, presque brusquement.
Avec plaisir.
Mais selon certaines conditions.
Avec mon nom en premier,
plaisante-t-elle.
Non, je suis sérieux.
Avec ton nom en premier,
dit-il avec tant de conviction qu'elle éclate de rire.
C'est une idée excitante.
J'y crois vraiment.
Il s'interrompt lorsque son téléphone sonne. Le nom de Hugo s'affiche, suivi de trois cœurs rouges.
Allô ?
Bernard ?
Dit une voix féminine.
Oui. Qui est à l'appareil ?
Olga, qu'est-ce qui se passe ?
Hugo a fait une crise de somnambulisme. Il était sur le point de passer par-dessus la rambarde de mon balcon. J'ai réussi à le rattraper.
Il est blessé ?
Non, juste quelques éraflures. Mais il est très secoué.
Agnetta s'est levée et s'approche de Bernard pour écouter.
Quand il a compris à quel point ça aurait pu mal finir, il est devenu très agité,
raconte Olga.
Il s'est mis à dire des choses étranges à propos de la caravane, vous savez.
Il est souvent confus quand on le réveille en pleine crise.
Je ne savais pas quoi faire.
Je peux lui parler ?
Il est sous la douche.
Il a pris ses médicaments ?
Oui, de l'Atarax.
C'est bien.
Mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'il rentre chez vous.
Je n'ai pas voulu le mettre dans un taxi sans être sûr que vous étiez là.
On est là.
Je vais venir le chercher. Tu habites où ?
Au 8 Jenny Lynn's Gata.
J'y serai dans un quart d'heure.
Je descends avec lui,
dit Olga.
Merci d'avoir appelé,
répond Bernard en raccrochant.